La Marche des Fiertés, seconde édition à Saint-Étienne, aura lieu le samedi 23 septembre au départ de la place Chavanel à partir de 14h. C'est un collectif d'associations qui organise cette manifestation, une manifestation revendicative pour les droits des personnes LGBTQIA+, mais également un moment festif à partager ensemble. Radio Ondaine vous propose aujourd'hui une rencontre avec Jérôme Mezagoza, qui est le président de Triangle Rose, association faisant partie de ce collectif d'organisation de la Marche des Fiertés 2023.
Alors, la Marche des Fiertés, c'est une marche donc revendicative et politique donc pour les droits des personnes LGBTQIA+. Donc, qui aura lieu à Saint-Étienne. C'est la deuxième Marche des Fiertés à Saint-Étienne. Il y en a une l'an dernier, donc qui a rassemblé 2300 personnes. Et cette année, donc du coup, ce sera le 23 septembre à partir de 14h. Rendez-vous place Chavanel.
Alors, la Marche des Fiertés, c'est une organisation aussi d'un collectif qui réunit un certain nombre d'associations qui œuvrent toute l'année et qui luttent contre l'homophobie, les LGBTIQA. Phobie. Et ces associations-là, si on doit les citer, quelles sont-elles ?
Alors, dans le collectif Fierté Saint-Étienne, on est plusieurs associations. Donc, il y a Triangle Rose, que je représente personnellement, Transcède, Le Refuge, Vermine, qui est un collectif donc, de drag queer donc, sur Saint-Étienne. On a l'ENIPS aussi, qui est une association nationale donc, de prévention contre le VIH et les IST. Et d'autres associations encore qui seront présentes sur le village associatif. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a plus de 16, donc ça risquerait d'être long. Mais on a tout un tissu associatif à Saint-Étienne. Et ça, c'est une chance d'ailleurs d'avoir une richesse associative à Saint-Étienne pour faire en sorte que les droits des personnes queer puissent évoluer.
Alors parlons de cette Marche des Fiertés, du côté festif dans un premier temps, et on abordera un peu le côté revendicatif. Les festivités, c'est quoi ? Comment ça se passe ?
Alors les festivités, elles auront lieu le soir en fait, donc après la marche, donc à partir de 18h pour les premières. Donc nous aurons donc des festivités au Petit Helder rue Louis Braille, au Nicky's Bar dans le quartier Saint-Jacques, donc au BXL place Grenette, au Beer Garden et au 6 Nations place Jean Jaurès, et à la Foule au Contretemps rue de la Ville. Voilà, donc il y aura donc des sets de DJ, des shows de drag et un village associatif donc qui sera divisé dans ces lieux pour que toutes les associations puissent aussi donc mieux se faire connaître et faire de la prévention auprès des jeunes qui seront présents dans la soirée.
Alors l'événement avant cette soirée, c'est donc cette marche. Le parcours, comment est-il défini ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qui est invité à y participer ? Comment vous organisez tout ça ?
Alors le parcours, il est défini déjà par sa date, puisque le 23 septembre, c'est une journée particulière, c'est quand même la journée de visibilité des personnes bisexuelles. Donc du coup, ça nous permet aussi donc, de faire passer un message. Et donc, on va démarrer donc place Chavanel à partir de 14h30, puisqu'entre 14h et 14h30, il y aura des discours revendicatifs. On va expliquer pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que c'est encore compliqué à Saint-Étienne et dans la Loire pour les personnes queer. Et on va donc du coup porter nos revendications haut et fort avant de démarrer la marche qui sera donc au départ de la place Chavanel. On va longer donc la rue de la Charité, la rue Michelet, on va remonter par ensuite l'avenue de la Libération jusqu'à Jean Moulin. On tournera donc sur la rue du Jeu de l'Arc, la rue de la République, on va longer les places d'Orient, place de l'Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, et on va aller jusqu'à la place Carnot du coup, qui sera le terminus de la marche vers à peu près 18h.
Alors, les revendications, quelles sont-elles ? Est-ce qu'il y a un mot d'ordre, si j'emploie ce terme-là, pour cette édition ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pointez particulièrement ?
Alors, on a un slogan pour cette édition qui est « Queer, fier et gaga », puisqu'on a une petite touche locale aussi. On va avoir plusieurs revendications, effectivement. On a beaucoup de revendications qui sont en rapport avec les violences contre les personnes LGBTQI+. Actuellement, elles ne sont pas assez prise en compte dans le département. On n'a pas assez de plaintes qui sont qualifiées ou qui sont malheureusement parfois même prises quand elles sont déposées. Donc on a tout un travail à faire avec les forces de police et de justice pour qu'enfin on ait des vrais chiffres donc, des agressions dans le département, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y en a beaucoup trop. Depuis 2014, elles ne cessent d'augmenter. Donc là aussi, on a tout un plan au niveau national à mettre en place pour qu'enfin on puisse mettre fin à ce fléau que sont ces agressions ou le harcèlement aussi LGBTQIA+, parce que c'est aussi un gros point noir actuellement. Et on a toute une revendication qui sera aussi en rapport avec les réfugiés LGBTQIA+, puisqu'on a beaucoup à Saint-Étienne de réfugiés qui ont fui leur pays en raison de cela, parce que soit ils sont en danger de mort, tout simplement, ou discriminés, ou emprisonnés. et qui se retrouvent à Saint-Étienne ou dans la région, donc dans la Loire, pour fuir ces sévices-là et qui demandent asile. Et actuellement en France, on ne les accueille pas correctement, on ne les accueille pas avec dignité. Pire, on leur demande même de prouver leur homosexualité, ce qui est absolument aberrant.
Alors, si l'on reste sur ces revendications, quels sont les leviers à la suite de cette marche, en termes de collectif, que vous pouvez actionner pour cette prise de conscience au niveau des institutions? Et puis, après, si l'on parle de réfugiés, on est dans une mondialisation, finalement, une question mondiale, une interrogation aussi sur la façon dont on traite les personnes LGBTIQ+. Localement, tout d'abord, les leviers que vous imaginez?
Alors localement, on a des leviers à actionner, effectivement. Je parlais de la formation des forces de police et de justice. Il y a aussi un cas qui est très particulier à Saint-Étienne, où on a beaucoup de refus de dossiers de changement d'état civil pour les personnes trans, aussi bien de dossiers préfecture pour l'état civil que de changement de prénom à la mairie de Saint-Étienne. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut qu'on donne, qu'il faut qu'on active auprès des pouvoirs publics pour qu'ils agissent, pour faire en sorte que tout simplement ces dossiers qui sont remplis, qui sont complétés avec donc sérieux, soient acceptés et ne soient pas refusés avec plus de difficultés que dans d'autres villes au niveau national.
Alors comprenons la situation, il n'y a pas de règles nationales dictées pour ces questions-là.
Alors depuis 2022, en fait, les personnes trans n'ont pas à passer par une décision de justice, en fait, pour faire leur changement de prénom notamment. Le souci, c'est que il y a des mairies où le changement de prénom se fait très facilement. Je prends l'exemple de Marseille, effectivement, ou de Toulouse. Il y a des mairies comme à Saint-Étienne où ça bloque encore parce que soit les agents sont pas formés, soit certaines personnes sont encore réticentes.
La question à l'international est des réfugiés qui viennent ici, qui fuient un pays dans lequel ils ne sont pas acceptés. La question se pose sur leur accueil et aussi l'accompagnement qu'ils peuvent avoir.
Effectivement, la question se pose sur leur accueil parce que déjà des places donc d'accueil spécifiques pour les personnes LGBT, il y en a très peu dans le département. En fait, il y en a 9. Les demandes, elles sont énormes, c'est-à-dire plus de 200. Et donc, du coup, on a un besoin qui est déjà immense maintenant et qui est loin d'être comblé donc actuellement. Et pour les personnes réfugiées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, elles sont prises en charge avec tous les autres en fait, personnes qui demandent asile en fait, dans le département, dans des centres où malheureusement, des fois, les personnes doivent se cacher de ce qu'elles sont parce qu'elles sont hébergées avec des personnes qui viennent de pays où l'homosexualité est réprimée par la loi et où, du coup, ces personnes pourraient leur poser des problèmes aussi. Donc, elles subissent en fait une double discrimination, un double rejet qui est à prendre en compte en fait, pour qu'elles puissent être prises en charge beaucoup plus dignement.
Alors, au-delà de cette date du 23 septembre, il y a la date du 17 mai. L'idée du collectif, c'est aussi de mener des actions régulières envers le public et dans la ville.
L'idée du collectif, effectivement, c'est de mener des actions régulières envers le public et dans la ville parce que, on le sait, si nous ne le faisons pas, malheureusement, les autres ne montreront pas l'exemple tout seul en fait. Donc il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit revendicatif, il faut qu'on montre que malheureusement c'est pas encore totalement bon pour les personnes LGBT en France. C'est pas parce qu'il y a eu le mariage pour tous que tout est réglé par exemple. Et il y a encore beaucoup de situations qui posent problème. Il y a encore des personnes qui ne sont pas reconnues actuellement par la France. Les personnes intersexes notamment ne sont pas reconnues actuellement par la France, alors que ça représente 1,7% des naissances en France en 2019. Donc il y a encore beaucoup à faire. Les personnes trans ont obtenu leurs droits pour la plupart entre 2017 et 2022, donc de manière très récente. Et même quand la loi a évolué, là je pense aux thérapies de conversion, même quand la loi a évolué, des fois les problèmes perdurent, puisqu'on a eu encore le cas d'actualité de personnes qui ont subi en fait, des thérapies de conversion en France, notamment à Marseille. Donc on est encore vigilant dans le département de la Loire. On n'oublie pas qu'il y a quelques années de ça, les deux plus gros centres en fait, de thérapie de conversion étaient au Puy-en-Velay et à Paray-le-Monial. Les deux sont aux portes en fait, du département de la Loire.
Alors, le 23, dans quel état d'esprit faut-il venir si l'on veut participer à cette marche des fiertés?
Alors le 23, il faut venir dans un état d'esprit qui sera festif, coloré, en espérant avoir le soleil aussi, mais aussi revendicatif et en portant très haut et très fort le fait qu'on est fier d'être ce qu'on est, qu'on existe et qu'on mérite tout simplement d'avoir les mêmes droits et devoirs que tout le monde.